C'est donc un psaume de réconfort, il est question de refuge, il est question de forteresse, il est question aussi de ce que Dieu est avec nous. Il est avec nous, il est comme une forteresse. Et j'aimerais ce matin, à travers une histoire qui se passe dans une nation étrangère à Israël, alors c'est très précis hein, parce que les archéologues ont pu mettre des dates très précises sur les règnes, etc. 2505 ans, voilà, c'est très précis. Hein. Des fois j'aurais pu arrondir à 2500, mais c'est 2505, voilà, hein, que cette histoire se passe. Et on va voir quelques similitudes et surtout en tirer quelques enseignements pour notre foi. Et pour cela, on va s'appuyer sur le livre d'Esther. Le livre d'Esther. Hein. Je pense que vous avez déjà lu ce beau livre. Et on va développer trois pensées à partir de ce livre d'Esther. La première pensée, c'est que Dieu est absent du livre d'Esther, mais pas de sa vie. Dieu est absent du livre d'Esther, mais jamais de sa vie. Mais il est bien présent dans la vie d'Esther. Vous le savez, vous pourrez relire ce livre d'Esther. Il est particulier, c'est le seul livre de la Bible où Dieu n'est jamais nommé, n'est jamais mentionné. Que ce soit éternel, que ce soit Seigneur, que ce soit Adonai, que ce soit Dieu, jamais le livre d'Esther ne mentionne le nom de l'éternel. Alors bien sûr, certains vont s'interroger. Hein, sur l'inspiration de ce livre, si ce livre d'Esther, d'abord, est bien en cohérence avec l'archéologie, avec l'histoire, mais surtout, est-ce que ce livre d'Esther est bien en harmonie avec l'histoire de Dieu, avec le plan de Dieu, avec les principes et les valeurs que Dieu, là aussi, manifeste dans d'autres livres? Et c'est une question que, bien sûr, on s'est posée bien avant nous. Alors côté histoire, hein, pas de problème, tous ceux qui ont fouillé Suse, on en parlera tout à l'heure, c'est la capitale d'hiver du royaume de Perse, eh bien s'accordent pour dire qu'effectivement le livre d'Esther est en parfaite cohérence avec les fouilles archéologiques. On a découvert hein, des choses, vous savez qu'au 18e, 19e siècle, certains archéologues sont partis pour démonter la Bible. Hein, ils ont été sur des sites et on a dit, eh bien, au moins on va faire des fouilles et on va montrer que la Bible dit faux. Sauf que, ces braves archéologues se sont rendus compte que tout ce qui était écrit dans leurs fouilles eh bien, était révélé. Voilà. Et ça a permis hein, que Dieu se serve de l'incrédulité de certains pour glorifier son nom. C'est extraordinaire. Hein. Dieu peut tout avec qui il veut. Et puis, alors côté surtout inspiration, il n'y a pas de problème non plus. Parce que ce livre, on va le voir, exprime les mêmes principes de foi, de grâce, de compassion, de la présence de Dieu qu'on retrouve dans les autres livres de la Bible. C'est exactement les mêmes principes. Hein, 2 Timothée 3,16, hein, vous connaissez là aussi ce texte qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, voilà, hein, depuis le début jusqu'à la fin, et puis elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, etc., etc. Alors, la présence de Dieu, premier principe dans nos vies, parce qu'on peut être surpris que jamais le nom de l'Éternel soit nommé dans ce livre. La présence de Dieu dans nos vies ne se mesure pas au nombre d'Alléluia qu'on peut prononcer par exemple dans une journée, au nombre de Seigneur que l'on peut prononcer dans une journée. Parfois on pense qu'un tel est plus spirituel que l'autre parce que toutes les trois phrases et les quatre paroles, on met un Alléluia, on met un Seigneur, etc., etc. Mais la présence de Dieu dans nos vies ne se mesure pas à cela, vous le savez. Matthieu 7, 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. » Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. On peut connaître des récits bibliques, des psaumes par cœur, et être capable de citer les 10 commandements, les 66 livres de la Bible, et puis ne pas vivre la présence de Dieu, ne pas connaître Jésus-Christ comme sauveur, ne pas connaître Dieu comme celui qui s'est révélé à travers Jésus. Hein, vous connaissez cette belle histoire c'est à l'époque des grandes traversées transatlantiques et bien sûr sur ces bateaux, aujourd'hui encore, des bateaux de croisière, tous les soirs il y a une animation, hein, donc il y a une chorale, il y a des jeux qui sont organisés. Et puis là dans cette traversée, il y a donc un homme de théâtre, alors avec une mémoire XXL, hein, je ne sais pas comment ils font, et puis qui est capable de déclamer du Hamlet, du Molière, etc., comme ça, on lui demande. Voilà. Donc, c'est le spectacle, c'est le spectacle. Et donc, il est là sur la scène, et puis on lui demande, voilà, est-ce que vous pouvez me déclarer ? Et puis, il le fait, et la salle est conquise par cet homme, sa mémoire extraordinaire. Et puis, à un moment donné, quelqu'un lui dit, est-ce que vous pouvez nous citer le psaume 23 ? Oh, le psaume 23, bien sûr, pour lui qui est capable d'apprendre des pièces par cœur. Et voilà, donc il déclame le psaume 23. Tout le monde applaudit. Quel extraordinaire comédien, etc. C'est magnifique. Et puis, il y a quelque chose qu'il travaille. Il se tourne vers la personne qui lui a demandé de déclamer ce psaume 23. C'est un vieillard ordinaire. Est-ce que vous aussi, vous pouvez le réciter ? Et cet homme vient devant dans une attitude très très humble et puis il commence donc à partager le psaume 23. Et à la fin de ce moment, dans la salle, il n'y a pas d'applaudissements. Dans la salle, il n'y a pas d'exclamation. Mais il y a des pleurs, il y a des gens qui sont convaincus que quelque chose s'est passé, etc. Il y a un bouleversement dans les cœurs. La salle est silencieuse, elle a été touchée. Et cet homme intelligent, dans le bon sens du terme, dira ceci. Voyez la différence entre moi et cet homme, c'est que moi je connais le psaume 23, mais lui il en connaît son auteur. Il en connaît le berger. Et on peut dire Alléluia, Seigneur, etc. Et le livre d'Esther nous dit ceci. Eh bien finalement, oui, c'est vrai que même si le nom de l'Éternel n'est pas dans ce livre d'Esther, en tout cas le plus important, c'est qu'il soit dans la vie d'Esther. C'est qu'il soit dans la vie de cette femme de Dieu. Et ainsi, il est bien présent dans sa vie. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important, car le pire qu'un homme puisse vivre ici-bas, c'est l'absence de Dieu dans sa vie. C'est l'absence de Dieu dans sa vie. C'est un encouragement, ce livre d'Esther, et je pense à tous nos frères et sœurs eh bien, qui sont persécutés et auxquels on interdit de prononcer le nom de l'Éternel, on interdit de parler de Jésus, que ce soit en public, que ce soit en famille, on les interdit, sous peine eh bien, d'être arrêtés, d'être torturés, voire mis à mort. Et ces frères et sœurs pourraient se culpabiliser là aussi quelque part. Pourtant, même s'ils ne prononcent pas le nom de l'Éternel à cause de la persécution, le plus important pour ces bien-aimés, c'est que l'Éternel soit présent dans leur cœur, dans leur vie, et ça, bien, on les retrouvera là-haut dans le ciel. Amen. Le livre d'Esther nous enseigne aussi cette belle réalité. Et il y a un verset particulier, bien sûr, qui marque la présence et la conduite de Dieu dans la vie d'Esther, c'est Esther 4, hein, verset 12 à 14. On peut le lire ensemble. Vous connaissez l'histoire. On rapporta à Mardoché les paroles d'Esther. Mardoché dit de répondre à Esther, « Ne pense pas en ton âme échappée dans la maison du roi plutôt que tous les Juifs. Hein, » On verra tout à l'heure, c'est ce massacre qui est prémédité, fomenté par Aman. « Si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs. D'autre part, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. » Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voilà la main de Dieu, voilà le verset clé pour la présence de Dieu dans la vie d'Esther. Mardoché lui met, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme cela, eh bien justement que Dieu t'a conduit à être la reine. Et le plus important dans notre histoire ce matin, eh bien, c'est que dans le cœur d'Esther, il y a vraiment la présence de Dieu. Alors, qui est Esther, hein ? On en a une hein, ce matin, donc avec nous, une Esther. Hein ? Oui, c'est ta fille, je sais, hein, mais c'est peut-être pour ça aussi que tu l'as appelée de cette manière, parce qu'il y a des choses très, 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 très fortes. Hein, donc, elle est à l'école le dimanche avec Corinne en ce moment-là. Donc, mais Esther 2, 5, 7, voilà, hein, juste un petit résumé. Il y avait à Suse, la capitale, un homme juif. Et son nom était Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shlimi, fils de Kis, benjamite. Il avait été transporté de Jérusalem avec des captifs qui avaient été transportés avec Jéconias, roi de Juda, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transporté. Et la suite, et il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle, de taille, belle de figure, et à la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'a pris pour fille. Alors, qui est Esther? Eh bien, on résume, hein, c'est une exilée, une orpheline, élevée par son oncle, qui est belle en tout point de vue, et qui a deux noms. Hein. Esther, c'est son nom perse, et ça veut dire étoile, oui, je ne demande au papa, hein. Étoile, et bien sûr, on pense certainement par rapport à sa beauté, hein, elle a ce nom perse, étoile, et puis Hadassa, elle a aussi ce nom hébreu, hein, Hadassa, qui veut dire donc myrte, c'est un arbuste, un petit arbuste qui est symbole de paix et de renaissance, de paix et de renaissance. Et ce qui était incroyable dans l'histoire, c'est que Dieu va donc se servir d'une jeune orpheline exilée, pour sauver son peuple d'une destruction systématique. Dans le plan de Dieu ce matin, bien nous ne sommes pas des anonymes, nous ne sommes pas des personnes non grata, là, comme on dit parfois, hein, des personnalités non grata, mais nous sommes ses enfants, et Dieu peut servir de qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Et cette jeune fille qui aurait pu se passer, excusez-moi l'expression, sous les radars, être une anonyme dans ce grand royaume, eh bien, orpheline, avec tout ce que ça peut comporter de blessures dans son cœur, eh bien, va être le choix de Dieu. Dieu va être présent dans sa vie. Connaissez le psaume 139, versets 13-17. C'est un psaume qu'on pourrait peut-être écrire sur nos miroirs. Hein, parfois, on a une image de nous qui est bon, qui est ce qu'elle est, alors on aimerait que les miroirs déforment un petit peu, mais le psaume 139, 13 dit ceci: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre en est grand. Amen. En fait, la présence de Dieu dans la vie d'Esther sera marquée parce que finalement, elle sera disponible au moment opportun. Parce qu'au moment où Dieu va en avoir besoin, elle sera disponible. Et c'est ce qui fait de chacun d'entre nous, finalement, bien des instruments de bénédiction, quand nous sommes disponibles entre les mains de Dieu, eh bien, lorsqu'il nous convie, lorsqu'il nous invite à agir en son nom. Il y a un cantique qu'on aurait pu chanter ce matin aussi, c'est un vieux cantique, « Dieu peut-il compter sur moi ?» Vous connaissez ce cantique, hein ?« Dieu peut-il compter sur moi ?» Vous ne connaissez pas ? Et la fin dit « Oui, Seigneur, tu peux compter sur moi. » Oui, Seigneur, nous comptons sur Dieu et on fait bien, hein, mais Dieu veut aussi compter sur nous. Psaume 65, 5. Heureux celui que tu choisis comme Esther et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta main, de la sainteté de ton temple. Amen. Peut-être que ce matin, vous dites, ah ben moi, je ne suis pas un proclamateur, de Jésus, je ne suis pas un missionnaire ou un envoyé. Sachez que le plus important pour vous, c'est que Jésus soit dans votre cœur, dans votre vie. Amen. Et que même si vous ne ferez jamais les unes du journal télévisé ce soir à 20h, le plus important, c'est que Jésus soit dans votre cœur. Amen. Ça, c'est le plus important. Deuxième pensée. Dieu en Iran reste le Dieu d'Israël. Dieu en Iran reste le Dieu d'Israël. Le livre d'Esther se passe essentiellement à Suse et dans tous les royaumes de Perse. Et à l'époque, hein, Esther 1.1 nous dit qu'il y avait 127 provinces. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Depuis l'Inde, si je faisais une carte dans la tête, jusqu'à l'Éthiopie. Et donc, j'ai relevé aujourd'hui les royaumes ou les pays. Arabie Saoudite, Yémen, Oman, Émirats, Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Koweït, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan. On en compte un petit peu, le royaume de Perse à l'époque. C'est énorme. Et ce livre bien nous ouvre les yeux sur les origines du conflit actuel qui s'est fomenté contre Israël. Il est question dans le livre d'Esther d'un plan, d'une planification méthodique pour éliminer tous les Juifs du royaume. Et ça fait froid dans le dos, hein. Quand on lit Esther 3, versets 5 à 15, il est question de destruction, etc. On va pas tout relire. Vas-y, voilà, chercher à détruire, pardon, juste peut-être avant. Voilà. Aman chercha donc à détruire tous les Juifs, hein, qui étaient, etc. Et puis avance-toi, parce qu'il y a aussi d'autres verbes qui sont donc peut-être après, vas-y voir, etc., etc. Le roi auteur. Bon, il y a un autre texte, hein, qui nous parle vraiment de cette destruction, de cette haine qui anime le cœur d'un certain Aman, hein, une haine. Il est question dans Esther 3.10 de Aman l'Agagit. Bon, c'est aujourd'hui Aman l'Agagit, l'adversaire des Juifs. Aman, ça veut dire illustre, ça veut dire magnifique, mais magnifique à l'image de l'adversaire de nos âmes, Satan. Vous relirez dans Ézéchiel 28, hein, il est dit ceci, « Tu représentais la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite. » Tu étais un chérubin aux ailes déployées. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de la splendeur. L'adversaire de nos âmes, Satan. Et Aman, eh bien, est un type là aussi. Et on retrouve les mêmes caractéristiques. Alors, Aman, l'Agadique, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un descendant d'Agag. Alors, qui est Agag? Eh bien, Agag, c'est le roi d'Amalek. Et quand vous relirez dans 1 Samuel 15, vous vous souvenez qu'à un moment donné, eh bien, Saül, lorsqu'il a conquis donc la région, n'a pas voulu tuer Aman, le roi Agag, l'Amalécite. Et donc, il est dit qu'il va offrir les sacrifices et que c'est Samuel qui va le tailler en pièces. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, la royauté va changer. Que Dieu va déchoir Saül de cette royauté. Qui est ce roi Amalek ? Eh bien, on retrouve Exode 17, 16. Vous vous souvenez de ce passage extraordinaire où Moïse élève ses mains parce qu'il combat Amalek dans la vallée. Et à un moment donné, eh bien, Hur et Aaron vont venir le soutenir, Josué, dans la vallée. Et qui est-ce qui est en train de combattre? Eh bien, c'est Amalek. Et voilà ce qu'il est dit dans cette déclaration. « Parce que j'avais à jurer, l'Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération. » De génération en génération. Et quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, eh bien, l'origine du conflit du Moyen-Orient actuel, c'est bien une œuvre spirituelle. Il y aura guerre entre Amalek de génération en génération. Et c'est ce qui ressurgit, bien sûr, aujourd'hui. Alors, pour nous, bien, c'est une belle réalité que le plan de Dieu se déroule et on n'a pas à en être effrayé personnellement, hein, parce que bien, c'est aussi le plan de Dieu qui se déroule. En tout cas, nous voulons penser ce matin aussi, en Iran, de manière particulière, à tous nos frères et sœurs qui sont persécutés, tous ces chrétiens, on les estime à 270 000 en Iran actuel. Et d'après ce qu'on entend, mais c'est très très difficile, il y aurait là aussi une œuvre de Dieu, une œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs, pour que dans ces temps de répression, de sanglants terribles, ce paradoxe, le Dieu d'Israël est en Iran. Le Dieu d'Israël est en Iran. D'ailleurs, une petite parenthèse, hein, le Dieu en Iran est toujours le Dieu d'Israël, c'est aussi le Dieu des chrétiens évangéliques de Pentecôte, hein. C'est le même. Le Dieu des chrétiens évangéliques de Pentecôte de Saint-Louis, ben c'est le Dieu d'Israël aussi. C'est le même. Non, mais je dis ça comme ça parce que des fois, il y en a qui, ouais, il y a le Dieu d'Israël, puis il y a le Dieu à nous, quoi. C'est pas, ouais, mais c'est quand même le même. C'est quand même le même. Et ce matin, eh bien, on sait que l'Iran est classé parmi les 10 pays au monde sous l'index de la persécution. Sous l'index de la persécution. C'est une réalité. Mais malgré cette réalité humaine, Dieu en Iran, parce qu'il est là, aujourd'hui encore, au travers de milliers de frères et sœurs qui sont persécutés, Dieu en Iran, c'est le Dieu d'Israël. L'Iran a beau mettre tous les bombes, tous les missiles, etc., après détruire Israël, on sait de toute façon que Dieu veille, même en Iran. Même au sein de leur propre nation, eh bien Dieu se révèle, Dieu se... C'est extraordinaire quand même, hein, comment Dieu est au-delà des frontières, au-delà des idéologies, au-delà des peuples, au-delà des gardiens de la révolution, Dieu est là. Et je me dis que si ce matin, Dieu peut être en Iran et rester le Dieu d'Israël, eh bien dans nos vies, c'est la même chose. Dieu est aussi celui qui se révèle comme ce Dieu d'Israël et qui nous garde et qui nous bénit et qui nous accorde sa grâce et son soutien. Matthieu 24, 6, et ça doit nous encourager, ça doit nous sécuriser ce matin. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer parce qu'il faut que toutes ces choses arrivent. Parce qu'il faut que toutes ces choses arrivent. Et j'arrive à mon dernier point. Dieu est au contrôle de l'incontrôlable. Dieu est au contrôle de l'incontrôlable. Notre monde s'affole, hein, nous le savons. Les marchés boursiers font le yo-yo, hein, un jour en haut, un jour en bas. Les prix du baril de pétrole, on vous parle que de ça. Ça monte, ça descend en pourcentage, etc. Les journaux télévisés sont en édition spéciale depuis des semaines et des semaines. C'est toujours édition spéciale. Je dis, waouh, ouais, bon. Hein, et on y va. Et puis chacun, bien sûr, et on s'intéresse. Moi, je m'intéresse aussi, bien entendu. On regarde l'actualité, on n'est pas non plus naïf. Hein, mais notre monde s'affole. Et j'oserais dire, c'est bien qu'ils s'affolent. Hein, si c'est vraiment pour là aussi qu'ils se mettent à genoux, qu'ils rencontrent le Dieu d'Israël, oui, il faut qu'ils s'affolent, parce que les temps vont s'empirer. On le sait également. Qu'en est-il dans le livre d'Esther ? Dieu est au contrôle de l'incontrôlable. Il y a plusieurs crises dans le livre d'Esther. D'abord, il y a une crise politique. Hein, il y a une crise politique. Esther 1.12, il y a la reine Vashti qui va transgresser le protocole. Vous vous rendez compte ? Son mari, donc, l'appelle, hein, c'est la fête dans le royaume, et puis il veut montrer son épouse, qui est là aussi d'une grande beauté, il veut la présenter, alors je ne sais pas comment, hein, dans quel état d'esprit, mais peu importe. Et là, elle refuse. Hein. Parfois, à la télévision, on voit les protocoles pour la reine d'Angleterre, il ne faut pas la toucher, etc. Puis certains présidents, bon, ont été un petit peu plus amicales que d'autres, et ça fait une révolution. Et là, il y a un protocole, bien sûr, et c'est la crise politique. C'est une crise politique qui est sévère. Et finalement, bien, cette femme va être exclue, vous le savez, et puis c'est à travers cette crise politique que Dieu va conduire Esther à devenir la reine d'un des plus puissants royaumes de l'époque. Je veux dire, d'une crise politique, Dieu va s'en servir pour glorifier son nom. Je vais m'adresser donc à notre sœur qui connaît bien le japonais, etc., le mandarin, le coréen, mais il semblerait que pour les Chinois et les Japonais, le mot « crise » est composé de deux idéogrammes. Est-ce que tu les connais, ces deux idéogrammes, hein ? C'est une spécialiste. Hein, voilà. Et en réunion de jeunes, elle nous parle japonais, elle nous parle coréen, etc. On ne comprend rien. Alors, il y en a un. Les idéogrammes, c'est des espèces de petits dessins, je ne sais pas quoi. Il y en a un qui signifie danger, mais l'autre qui signifie opportunité. Un, c'est danger, la crise, c'est danger, oui, c'est dangereux. Mais l'autre, en même temps, signifie opportunité. Opportunité. Pouvons tous vivre ce matin des crises de foi, F-O-I, crise de foi. Hein. Je ne sais pas comment vous la soignez, la crise de foi, hein, mais la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je crois que soigner une bonne crise de foi, eh bien, la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous y aider en tout cas. C'est des moments où finalement, eh bien, il nous semble que nous sommes en danger, et ce n'est pas des fois qu'il nous semble, eh bien, nous sommes en danger. Parce qu'il y a une crise, bien sûr, mais rappelons-nous, malgré tout, que Dieu est au contrôle. Parce qu'avec le danger, il y a aussi l'opportunité. Que Dieu transforme, que Dieu change les choses, qu'il change le mal en bien, hein, et que son nom soit glorifié. Oui, peut-être que ce matin, nous vivons une crise, alors qu'elle soit personnelle, familiale, qu'elle soit nationale ou autre, etc. Oui, nous pouvons nous sentir en danger, c'est une réalité, mais rappelons-nous aussi que Dieu est au contrôle. Et qu'il veut se sortir de cette crise comme une opportunité pour que son nom soit glorifié, d'une manière ou d'une autre, mais que son nom soit glorifié. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Mais une autre traduction tout aussi juste et complémentaire, Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui aiment. Il y a les deux aspects. Hein, il y a cet aspect où il y a la conduite de Dieu, même dans ma crise, même dans les crises. Et là, dans cette crise politique, eh bien, Dieu a conduit Esther, hein, à devenir cette reine. Il y a aussi une crise spirituelle, bien entendu. On en parlait tout à l'heure avec Aman, hein, l'antisémitisme, la haine des Juifs dans le cœur d'Aman, on l'a vu tout à l'heure, ne vient pas que de son époque. Hein, c'est dès Moïse, ce combat là aussi où il y a cette réalité. Et il est dit ceci dans ce décret, eh bien que ce décret, il fallait, voilà, je l'ai, Esther 3.13, en un seul jour, exterminer, massacrer, supprimer tous les Juifs, jeunes, vieux, petits-enfants, femmes, et procéder au pillage de leurs biens. C'est pas rien quand même ce décret, hein. En un seul jour, massacrer tout le monde et piller tous les biens, c'est vraiment un décret diabolique, inspiré justement par ce problème, cette réalité spirituelle. Et c'est une crise spirituelle. C'est une crise spirituelle. Et on retrouve bien sûr ici, eh bien, ce qui motive Satan pour nous détruire, pour détruire bien sûr tous ceux qui sont sur cette planète, mais particulièrement encore, son choix se porte sur les disciples de Jésus-Christ, parce qu'il sait très bien que c'est nous qui sommes vainqueurs. Et donc il y a aussi parfois dans nos vies des crises spirituelles où nous sommes attaqués, où nous sommes passés à la moulinette, mais là encore, frères et sœurs, Dieu est au contrôle. Dieu est en contrôle de l'incontrôlable. Dieu se manifeste, même dans les persécutions parfois les plus cruelles, allant même peut-être jusqu'au martyr, hein, Étienne. Mais là encore, l'amour de Dieu triomphe. Dieu est au contrôle. Étienne, qui aurait pu être amer dans ce moment, dira comme Jésus, « Père, pardonne-leur. » L'amour triomphe. Romains 8, 35, on peut relire ce verset, si vous voulez, ensemble. Pour celles et ceux aussi qui sont éprouvés ce matin, qui passent par des moments de crise, Dieu est au contrôle. Qui est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Tribulation, détresse, persécution, famine, nudité, péril, épée? Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Et la suite nous dit, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis assuré que ni moi, ni la mort, pardon, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi ? De l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu est au contrôle de l'incontrôlable. Si ce matin nous vivons quelque chose qui nous échappe, il y a parfois des événements qui nous échappent, eh bien, sachez malgré tout que Dieu est au contrôle. Amen. Et il veut changer le mal en bien. Et puis, je termine, c'est une crise identitaire, existentielle, personnelle. Jusqu'à un certain moment donné, Esther n'a jamais divulgué son origine. Elle n'a rien dit. On pourrait dire, mais finalement, elle garde son identité secrète. Elle a Esther comme nom, et puis Hadassa. Elle se dit, alors je ne sais pas, peut-être qu'elle ne se l'est pas dit, mais elle aurait dit, ben, moi je dis rien, comme on ne connaît pas mon origine, si mon peuple est massacré, moi j'échapperai. Elle aurait pu cacher là aussi son identité. Et il y a une crise identitaire, existentielle, bien sûr, personnelle, peut-être la peur du qu'en dira-t-on, parfois, lorsqu'on n'ose pas témoigner notre foi, on se dit, oh là là, si je dis ça ici, etc., hein, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Ou alors, l'inverse, oh, moi je veux vivre tranquille ma foi. Je ne sais plus quel grand philosophe a dit ceci. Pour vivre heureux, c'est vivre caché, un truc comme ça. Vous n'avez jamais appris ça, hein? Vivons cachés, vivons heureux, enfin bon, voilà. Et certains disent, oh là là, non, moi je vais être tranquille au bureau, je vais être tranquille dans mon quartier, moi, voilà, j'ai mis ma foi tranquille, et puis personne ne doit le savoir. Bon, mais il y a un moment donné, ou un autre, dans nos vies, de toute façon, où Dieu va nous conduire, va nous amener à révéler notre foi, à partager notre foi. Il va nous y conduire, d'une manière ou d'une autre, etc. Ça va peut-être nous bouleverser, nous déranger, mais à un moment donné, parce qu'on est la lumière de ce monde, eh bien, il va nous apprendre. Je me souviens quand j'étais étudiant, j'étais jeune converti, etc. Et bon, bien sûr, je témoignais, donc j'avais mis sur mes trousses « Jésus t'aime » et puis je mettais bien la trousse devant le prof, etc. Voilà, et à un moment donné, donc, j'avais affiché des grandes affiches dans ma chambre universitaire. Et à un moment donné, donc, j'étais au restaurant universitaire avec plein de camarades, etc. Et puis là, devant tout le monde, alors je ne sais pas qu'est-ce qui a pris à cette jeune fille, elle dit ceci, « Ah, moi, ma grand-mère, elle est chrétienne. » Parce que je m'étais dit, là aussi, je ne vais quand même pas rendre grâce comme ça devant tout le monde, m'incliner avec mon plateau, dire « je ferai comme ça. » Alors, je prenais mon plateau, « Seigneur, merci pour ça, tata, mais intérieurement, je vais surtout perdre. Hein, » voilà. Et là, à un moment donné, cette jeune fille dit, « Ah, ma grand-mère, elle est chrétienne, et que, à chaque fois que je vais chez elle, elle rend grâce au Seigneur pour la nourriture. Et quand je sais que Didier est chrétien, il va faire la prière maintenant devant tout le monde. » En plein restaurant universitaire. Il y avait, je sais pas, bon, on exagère, mais il y avait une grande taille. Alors Didier, il a bredouillé 2-3 trucs, je crois, etc. Mais la leçon a été donnée. Je dis, Seigneur, maintenant, j'aurais plus honte de toi. Que je sois au restaurant ou ailleurs, etc., je rendrai grâce au Seigneur pour la nourriture qu'il me donne. Voilà, Dieu m'a conduit de cette manière, hein, voilà, tranquillement, à être un instrument de bénédiction. En tout cas, je termine. Le livre d'Esther se termine par l'instauration de la fête des Pourim. Hein, je sais, hein, littéralement, on a jeté le sort, Aman a jeté le sort, pour savoir quel jour il allait massacrer les Juifs. Et on sait que Dieu a changé le mal en bien. Et jusqu'à maintenant, bien, les Juifs le célèbrent, ils l'ont célébré il n'y a pas longtemps. Et que lisent-ils? Eh bien, ils lisent le livre d'Esther, bien entendu. Et cette fête des Pourim, bien sûr, c'est l'expression de la délivrance, du miracle de Dieu, de la résilience d'un peuple, de l'espoir, de l'espérance pour tout un peuple. Et cette fête est fêtée chaque année depuis Esther. Alors pour nous, si on retourne au psaume 46 pour faire une boucle, eh bien, on s'aperçoit de quelque chose, c'est que ce psaume, il est comme entouré par une forteresse, une parole de vie, une parole de Dieu. C'est quoi cette parole qui entoure ce psaume? Eh bien, c'est le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Quel est le dernier verset? L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Amen. Amen. Et ce matin, finalement, ces versets entourent ce psaume comme une protection divine. Et je crois que ce matin, bien Dieu aussi veut nous entourer son peuple, d'une manière générale, comme d'une protection divine. Parce que, on l'a vu ensemble, eh bien, dans le livre d'Esther, même si le nom de l'Éternel n'apparaît pas dans le livre d'Esther, il est bien présent dans sa vie. Et ça, c'est le plus important. Et puis, Dieu en Iran reste et demeure le Dieu d'Israël. Et Dieu dans nos vies demeure le Dieu d'Israël. Et puis, la dernière pensée pour nous ce matin, c'est que Dieu est au contrôle même de l'incontrôlable. Amen. Alors on pourrait peut-être prier ce matin, il y a peut-être des bien-aimés qui, là aussi, ont besoin tout simplement d'être renouvelés dans leur foi, bien, appuyez-vous sur la parole de Dieu, sur les promesses. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Te rendons grâce, Seigneur, ce matin pour ta parole. Nous voyons que ta parole est un livre inspiré. Tout ce qui a été écrit, Seigneur, s'accomplit. Et certaines de ces prophéties s'accomplissent sous nos yeux ce matin. Te remercions parce que tu n'as pas changé. Tu restes le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci Seigneur pour cette révélation. Ce matin, nous voulons simplement confesser que tu demeures au contrôle de tout, y compris de ce qui est incontrôlable. Tu es souverain. Et je prie, et nous prions ce matin les uns pour les autres, pour des frères et sœurs qui vivent des situations qui sont incontrôlables, qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne maîtrisent plus. Te prions, Seigneur, ce matin que, comme dans le livre d'Esther, tu te révèles maintenant et tu leur montres, Seigneur, que tu changes mal en bien. Que, Seigneur, il y a des moments dans nos vies où tu permets ces crises, non pas pour nous mettre en danger, mais pour créer de nouvelles opportunités, pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit élevé. Alors ce matin, fais grâce à des frères et sœurs qui sont venus et qui entendent cette parole, qu'ils puissent s'en saisir et se l'approprier. Oui, notre Seigneur, l'Éternel, est pour nous un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. L'Éternel est le Dieu de Jacob. Il reste et il demeure avec nous. Que ta main soit sur nous ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. 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 Peut-être pendant ce service de Sainte-Seine, on pourrait chanter un chant. On pourrait demander à Irène et puis à Jean-Jacques s'ils voudraient venir sur le devant pour partager à Sainte-Seine. Et puis peut-être Monique également. Voilà, si elle veut bien venir, il me semble qu'il reste encore un chant, non ? Pour qu'on puisse aussi, autour de la Sainte-Seine, célébrer le nom de Jésus. Voilà, si nos frères et sœurs qui ont été cités, invités, hein, peuvent s'avancer, voilà, sur le devant pour présenter, partager la Sainte-Seine avec nous. Et puis nous qui sommes baptisés, on pourra se lever ce matin. Voilà, nos bien-aimés vont présenter ce moment au Seigneur. Et puis ensuite, on pourra confesser encore, hein.